Du 25 au 28 janvier 2024, l'association Écologie au quotidien organisait ses 22e rencontres de 10 intitulées « Agir pour le vivant ». Erdiwa était convié à prendre la parole de quelques intervenants présents lors de ces 4 journées. Florence Alicot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ici au sein de ces rencontres de l'écologie et particulièrement pour l'atelier qui concerne sur le film Échange Alzheimer, La Voix du Cœur. Donc j'ai eu cette conversation avec Fleur-Lise ce matin et vous êtes représentante en quelque sorte de ZAZA. Un acronyme qui signifie Zen Attitude, Zen Alzheimer. C'est une structure qui existe dans la Drôme, précisément.
Alors, les ZAZA, c'est une association qui a son siège effectivement à Valence et qui se propose d'ouvrir dans les villages et dans les quartiers des maisons de vie pour 8 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de leur proposer de vivre le plus simplement possible et de qu'on les accompagne dans la pathologie, mais en étant intégrés dans les quartiers, intégrés dans le milieu local, dans le milieu associatif, avec les familles, avec tous les professionnels qui interviennent, puisqu'on vit comme à la maison, donc il n'y a pas de services médicaux à l'intérieur. C'est une maison comme les nôtres, mais au lieu d'être 2 ou 3 ou 4, on est 8. Voilà. Et ces personnes sont accompagnées en continu par des professionnels, jour et nuit, puisque c'est quand même des gens qu'il faut accompagner, avec le souci de permettre à la personne de rester au plus proche de ses besoins, de ses habitudes, de ses aspirations, de ses envies. Donc vraiment, le petit nombre permet de connaître bien les personnes et d'avoir auprès d'elles une présence et une façon de faire qui respecte au mieux la personne et de ne pas l'obliger ou la cadrer ou la mettre dans des rythmes ou dans des activités qui ne sont pas les siennes, etc. Et ces maisons restent totalement ouvertes aux familles concernées. Et elles ont leur place, elles doivent garder leur place et puis faire autant que faire se peut, comme si on était dans la maison d'à côté et que les gens continuent aussi à sortir, à avoir des activités à l'extérieur. Donc les associations locales restent aussi des partenaires importants. Voilà, c'est une autre, ça s'appelle de l'habitat inclusif, c'est-à-dire du logement. D'ailleurs, les ZAZA relèvent du logement et non pas du médico-social. Donc c'est vraiment une offre de logement qui s'adapte de façon à pouvoir accompagner la maladie.
Pourquoi ce nombre de 8 personnes? Il y a une raison que vous avez pu déterminer?
Oui. 8, parce que malgré tout ce qu'on peut faire, ça coûte cher d'accompagner quelqu'un 24 heures sur 24. Et 8 personnes permet d'avoir quand même... D'abord, c'est un chiffre qui est un bon chiffre pour avoir une bonne dynamique relationnelle, une bonne dynamique entre les personnes. Et aussi, qui permet d'avoir un équilibre financier, parce que il faut du personnel en continu. Donc le personnel, c'est au moins 2 personnes dans la journée et une personne la nuit. Et pour faire fonctionner ça 24 heures par jour, 365 jours par an, ça représente à peu près 7 à 8 équivalents temps plein. Ce qui veut dire que pour pouvoir encaisser le coût, il faut qu'il y ait un nombre minimum. Et le 8 est un nombre minimum pour pouvoir équilibrer les coûts Et aussi, ça permet à une personne, par exemple, de s'occuper du 8 sans être trop débordée, sur des petits moments, par exemple. Dans la journée, il faut être deux, mais la nuit, c'est une personne, ça suffit. Voilà, c'est quand même un compromis d'équilibre qui est aussi bien pour la personne que pour les professionnels, que pour l'équilibre économique. Voilà.
Alors, chaque personne a sa chambre, oui, en quelque sorte, avec ses propres sanitaires.
Là, ça va beaucoup dépendre des lieux qu'on va trouver. Parce que c'est pas une maison de retraite. Parce qu'il peut y avoir, par exemple, à la maison, on partage la salle de bain à plusieurs personnes dans la maison. Et bien là, ça peut être la même chose. C'est-à-dire pas forcément une salle de bain par chambre. Si c'est le cas, c'est le cas. Si on trouve une maison qui est aménagée comme ça, c'est comme ça. Mais c'est pas forcément... Il faut avoir l'idée... J'en parle d'autant mieux qu'avant d'être dans l'association Les Azas, dans mon parcours professionnel, j'ai ouvert des petites maisons comme ça. Et que je me suis rendu compte que ce qui était vraiment important, c'est de rester tout le temps dans une logique domestique. Dès lors que, avec un nombre de personnes comme ça, on bascule sur des logiques institutionnelles comme si c'était une maison de retraite, c'est foutu. On n'a pas la possibilité. Vivre comme à la maison.
Chaque personne peut recevoir aussi donc des membres de sa famille qui lui rendent visite, voire même peut-être les accompagner, je vois, en colocation. Ça, c'est destiné aux membres de la famille qui souhaitent peut-être être présents, en nocturne, par exemple.
Alors, la colocation, c'est entre les 8 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Bien sûr que les familles sont bienvenues. De là à ce qu'elles s'installent pour dormir sur place, non. Mais chaque personne a sa chambre. Donc ça, oui, c'est un espace d'intimité et personnel. Et puis, il y a beaucoup d'espaces communs qui permettent justement aux familles de venir, soit de s'isoler dans un petit coin avec leurs proches, soit de participer à la vie collective, soit de venir et de sortir avec la personne. Tout est possible, mais c'est comme à la maison. Donc, s'il y a une personne qui vient de loin et qui a besoin de dormir une nuit ou deux, ben, je sais pas, on trouvera une solution pour permettre, soit on orientera sur une chambre, je sais pas, j'en sais rien. C'est pas encore. On est sur les Azas, c'est une association qui n'a pas encore de lieu ouvert. Il y a des projets, mais il n'y a pas encore de maison ouverte.
Fleur-Lise Monastès, oui, qui intervient avec vous pour ces échanges Alzheimer, vous avez vu son travail au travers de sa vidéo. Est-ce que ça vous a touché et est-ce qu'il y a cette nécessité, semble-t-il aussi, de prendre en compte cet accompagnement dans ces maisons?
Mais oui, parce que en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se rapproche vraiment de la personne. On n'est pas sur un groupe de gens dans un EHPAD, on est auprès de chaque personne. Et elle établit avec chacun, chacune, vraiment un lien de cœur, un lien d'écoute, un lien de respect, de vraiment d'être au plus proche de ce que chaque personne va manifester comme émotion, comme mal-être, comme colère ou comme difficulté. Et elle va s'adapter et vraiment être à l'écoute. Et les Azas ou bien les maisons comme j'avais ouvertes, c'est cette même idée, c'est de ne pas prendre la personne dans un collectif, mais de la laisser dans son individualité et de pouvoir vraiment être à l'écoute de sa singularité. Et le fait d'être dans des maisons de petite volume, petite contenance, permet de vraiment s'asseoir à côté et puis de passer le temps nécessaire pour pouvoir vraiment se... C'est vraiment de cœur à cœur, c'est ce qu'elle fait, Fleur-Lise. Elle est au niveau du cœur et elle vient toucher les gens dans le cœur. Donc c'est pas tant ce qu'on fait avec elle que la manière d'être avec. Donc oui, c'est super ce qu'elle fait. Et elle utilise le média du chant ou de la musique. Et nous, dans les maisons Zaza, tout est utilisé pour permettre à la personne de participer, de décider, de prendre part, c'est-à-dire vraiment de pratiquer. Dans la plupart des familles qui ont personnes malades comme ça, le réflexe c'est de faire à la place. parce que ça va plus vite et que nous, ça nous agace d'attendre. Alors que le but, c'est vraiment de se mettre au rythme des personnes, le rythme émotionnel, mais le rythme pratique aussi, et de faire avec, et de leur permettre aussi le moins possible perdre les gestes qu'elles savent encore faire. Donc de vraiment pas faire à la place, mais d'accompagner.
Comment se constitue un projet et quel financement, quel soutien également?
Alors, donc ça dépend beaucoup du format immobilier qu'on va trouver. Là, par exemple, il y a un projet qui serait de reprendre une maison qui est déjà occupée par 8 personnes handicapées qui vont libérer. Et là, ça serait sous forme d'un loyer. Donc, ça, c'est idéal. C'est-à-dire que les 8 personnes vont payer un loyer qui va, lui, couvrir le loyer commun. Comme une coloc. C'est une coloc. Voilà. Donc, en fait, chaque personne va payer sa part de loyer sur laquelle il va pouvoir bénéficier de l'APL. Chaque personne va payer les frais inhérents à la présence du personnel et va toucher en contrepartie l'aide personnalisée à l'autonomie selon sa situation personnelle. Il va y avoir également une aide à la vie partagée, là, qui est un apport collectif, un apport d'État. Oui, chacun va pouvoir mettre dans le pot commun la part d'aide dont il bénéficie individuellement. Il va continuer à garder cette dimension individuelle, mais ça va être mutualisé. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir 8 aides à domicile, on va avoir une ou deux aides à domicile qui vont s'occuper des 8. Donc il va y avoir, on garde le principe de la singularité des moyens, mais avec une mutualisation pour pouvoir les faire bénéficier, non pas 2 heures par jour, mais 10 heures par jour. Si on est 2 fois 8, 16 heures par jour, voilà. Ou 24 heures, puisqu'on va aussi rémunérer la nuit.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du Diwa.
107.5,
101.7,
FM.
Une manière de rapprocher aussi l'activité pour peut-être réduire les distances, les parcours, pour s'occuper de ces personnes si elles étaient à domicile notamment.
L'idéal, ça serait que chaque village ait une petite maison Zaza et que chaque quartier des grandes villes ait une maison Zaza. C'est-à-dire que toutes les personnes seraient maintenues dans leur proximité et dans leur repère géographique et donc relationnel, et que ça résoudrait le problème. Alors que là, on est à la veille d'une explosion. D'ailleurs, on n'est pas à la veille, on est dans une explosion de besoins et en face desquels il n'y a pas les moyens. Donc aujourd'hui, il y a des tas de familles qui se trouvent face à accompagner des proches de leur famille sans aide, sans moyens. Et il y en a beaucoup qui craquent. C'est vraiment une question de société. C'est pas une affaire de famille, c'est une question de société. Et il faut vraiment que le pouvoir politique s'en empare pour prendre la mesure de ce qui est en train de se passer. Toute la génération là, qui est née après la guerre arrive à un âge où les pathologies se déclarent. Et c'est vraiment maintenant qu'il va y avoir une explosion forte.
Votre activité, Florence Alico, a toujours été vouée à cette maladie d'Alzheimer?
Alors, la maladie d'Alzheimer en particulier, mais plus généralement l'accompagnement du vieillissement de la population. Ouais.
Ma question était de savoir, à l'avènement du deuxième mandat de Jacques Chirac, il avait décrété la maladie d'Alzheimer comme une grande cause nationale et de développer aussi la recherche autour de cette maladie. Est-ce que, je ne sais pas si depuis 2002, vous en 2002. Avez pressenti le progrès ou une écoute du moins?
Moi, je dirais plutôt l'inverse, parce que la loi de 2002 qui a instauré les EHPAD comme la seule solution, comme la seule réponse d'accompagnement du vieillissement de la population, on en sait maintenant les travers et les écueils, voire même les désastres. Alors que c'est ce qui est... là, il y a une vraie réflexion à faire qui va toucher à la fois le logement, l'accompagnement, la famille, la santé. Mais la santé, c'est pas médical, la maladie d'Alzheimer, il n'y a pas de traitement. Les médecins le savent qu'il n'y a pas de traitement. La recherche qui aujourd'hui est engagée sur Alzheimer, malheureusement, elle touche que le cerveau pour essayer de trouver un médicament. Mais ce n'est pas le sujet, la question c'est la cause. pourquoi est-ce qu'il y a tant de personnes qui sont touchées par cette maladie? Et plus généralement, toutes les maladies neurodégénératives. Si on ne se pose pas cette question-là, pour essayer de prendre les choses à la source, mais on est à côté de la plaque.
D'ailleurs, depuis quand a-t-elle été découverte, nommée même? Est-ce qu'il y a eu des dispositions sociales ou économiques qui ont peut-être amené ce développement?
Avant de la nommer maladie d'Alzheimer, on parlait des démences séniles. C'est une autre façon de parler de cette perte de mémoire, cette perte de repère qui fait qu'on n'est plus là. Bon, après, il y a eu des recherches spécifiques sur le cerveau qui ont permis de voir qu'il y avait des zones du cerveau qui étaient atteintes. Mais la démence sénile ou la maladie d'Alzheimer, à mon sens, elles prennent leur source dans les mêmes causes. C'est des causes d'incapacité à traverser des grandes épreuves de la vie, entre autres. Et notamment les deuils, les traumatismes, tous les deuils qu'on a à faire dans la vie, comme un divorce, comme un licenciement, comme un déplacement, un déménagement, comme la perte d'un proche, etc. Et où la société n'accompagne pas et la personne reste avec des traumatismes et la seule solution de s'en sortir, c'est de baisser le rideau ou de disjoncter. Quand on est dans une impasse et qu'il y a tellement d'angoisse ou tellement de souffrance et qu'on ne veut pas souffrir à nouveau, et ben voilà, c'est une manière de s'en aller, de décrocher. Il y a ça. Et puis moi, je pense qu'il y a plein d'autres raisons aussi. Hein. Je ne veux pas dire que tout est là, mais je pense qu'il y a beaucoup de raisons qui aujourd'hui... D'abord aussi, on vieillit, on a une espérance de vie plus longue. Donc la maladie a plus le temps de se déclarer. Encore que, il y a de plus en plus de personnes touchées jeunes. Par cette maladie. On n'attend pas 60 ans pour être déclaré Alzheimer. Et puis je pense aussi que les questions alimentaires, les questions de tous les produits chimiques qui rentrent dans l'alimentation avant ou après la récolte, tout ça, c'est pas sans effet, on le sait. Il y a tout ce qui est, certains chercheurs accusent les nanoparticules qui ont passé la barrière méningée, et la barrière hépatique et qui ont développé pas mal de pathologies comme ça. C'est sûrement multifactoriel, mais si on ne s'intéresse pas à la cause psychologique, et d'ailleurs de plus en plus là on commence à entendre parler de cause psychologique, eh bien on fera comme fait beaucoup la médecine, c'est de soigner les symptômes mais pas la cause. Or, quand on voit à quel rythme ça se développe, c'est impressionnant et je pense que on va se trouver... Chirac avait bien vu le coup, il avait bien vu que c'était une cause nationale. Malheureusement, on ne s'est pas donné les moyens pour pouvoir l'accompagner. Et aujourd'hui, c'est le moment, parce que le papy-boom, comme on dit, il est là.
Il y a un site internet pour découvrir aussi votre activité. Donc le siège est à Bourg-lès-Valence. Oui, je donnerai l'adresse sur la page du site, sinon on peut l'indiquer de vive voix.
Là, c'est le siège du... Il vaut mieux donner le numéro de téléphone et le site, pas l'adresse postale, parce que...
D'accord. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que c'est un lieu ouvert ou alors
non.
Vous organisez des rencontres de temps en temps ou régulièrement pour...
Par exemple, on a été très présents lors de la Semaine Bleue, où on a fait cette année une caravane itinérante, qui est toute la vallée de la Drôme de Saulx. De Saulx à Oust, il y a eu des étapes. On s'est installé dans des lieux, on était présents pour des professionnels, pour des habitants, pour des élus. L'année dernière également, il y avait eu un gros investissement pour la Semaine Bleue. Je pense que là, maintenant, je ne peux pas trop en parler parce que je ne suis plus active dans l'association. Mais il y a sûrement, il y a un certain nombre de rencontres qui sont organisées aussi pour sensibiliser sur le métier, sur les métiers d'accompagnement, les métiers d'aide l'aide à la personne. Et il y a le souci chez les ASA, vraiment de constituer des équipes de professionnels qui vont être accompagnés, soutenus, écoutés, de façon à faire que ce métier reprenne de l'intérêt, soit valorisé, soit mieux rémunéré. Et alors qu'aujourd'hui, il y a un désastre de ce côté-là. Il y a personne dans les associations d'aide à domicile, ils ne savent même pas comment répondre aux besoins de la demande.
Est-ce que vous réfléchissez également à, peut-être à un modèle économique pour améliorer justement cette notion d'accueil, d'accompagnement de ces lieux, contrairement aux EHPAD où il y avait des restrictions budgétaires au niveau des salaires ou des disponibilités?
Déjà, il faut savoir une chose, c'est que les ASA, c'est une association.
Oui, d'accord. Mais c'était le contre-exemple que je citais, oui.
Mais dans les EHPAD, vous avez tous les actionnaires qu'il faut rémunérer d'abord. Et ça, c'est une grosse part qui est un manque à gagner énorme sur le personnel et les prestations. Donc ça, je tiens à le dire parce que si on ne reprend pas la question de l'accompagnement du vieillissement de la population sous un angle solidaire, on ne s'en sortira pas. Si on fait de l'argent sur les vieux, on continuera à faire ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui a été dénoncé par la fameuse enquête sur les maisons de retraite et les EHPAD. Voilà, il n'y a pas de secret, ça coûte cher de payer du personnel. Et si on commence par payer les actionnaires qui n'ont fait que de mettre de l'argent et qu'on sait que l'argent donne de l'argent, bon, je ne crois pas qu'on va vraiment avancer sur la résolution de cet enjeu de société.
Florence Alicot, je vous remercie beaucoup en tout cas de nous avoir donné un peu de temps pour nous parler donc des ASA et puis de votre participation aux rencontres de l'écologie. Je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup, merci.
Au revoir.